réplique Penser le mal avec Frédéric Lechterflack et Marion Muller-Collard. La question de la souffrance des innocents, des justes, de ceux qui n'ont rien à se reprocher, se pose à l'homme et le tourmente depuis le commencement du monde. Elle est présente dans l'Ancien Testament avec le livre de Job, un texte simple et vertigineux qu'on relut chacune à sa façon, l'écrivaine et théologienne protestante Marion Muller-Collard, dans L'autre Dieu, la plainte, la menace et la grâce, et Frédéric Lechterflack, qui enseigne les humanités politiques et la littérature à Sciences Po Paris, dans Pourquoi le mal frappe les gens bien. Voyons ce que ces lectures nous enseignent, et d'abord, pour rafraîchir nos mémoires engourdies, que raconte exactement le livre de Job, Marion Muller-Collard?
Alors, c'est effectivement l'histoire emblématique du juste souffrant dans le Premier Testament, l'histoire d'un homme intègre et droit, dont le texte nous dit qu'il s'écartait du mal et qui présume, par conséquent, qu'il sera préservé du malheur. Et c'est cette équation qui va être testée, remise en cause par l'intervention du Satan, mais Job n'en saura rien du début jusqu'à la fin, qui viendra répondre quasiment à une provocation de Dieu qui vient d'abord à lui en lui disant « Vois-tu mon serviteur Job, comme il me craint, comme il est fidèle, comme il est droit ?» Et Satan va répondre « Mais est-ce pour rien que Job te craint ?» Et il va parler de cette image de l'enclos en disant « Si tu ne l'avais pas protégé d'un enclos, est-ce qu'il continuerait à être aussi fidèle, droit et intègre ?» Et s'ensuit un pari entre Dieu et Satan, Dieu autorisant Satan à éprouver Job tout en préservant sa vie. Et Job, ignorant ce pari, va se démener et essayer de démêler et de comprendre ou de ne pas comprendre ce qui lui arrive, avec l'intervention de trois de ses amis dont on aura certainement l'occasion de parler.
Oui, mais alors Satan, il va fort, si j'ose dire. C'est-à-dire que Job était riche, il perd tous ses troupeaux, mais aussi, dans un terrible accident, ses enfants, tous ses enfants, devrais-je dire, puisqu'il avait 7 fils et 3 filles en plus. Pour couronner le tout, il est accablé d'une terrible maladie de peau, donc il souffre le deuil, et il souffre dans sa chair tout le temps, tout le temps. Et effectivement, il s'agit de le mettre à l'épreuve. Continuera-t-il à croire en Dieu après tout ce calvaire? Et effectivement, à un moment donné, il en vient à maudire Dieu, non? C'est ça.
Pas tout de suite.
Pas tout de suite.
Il commencera par dire cette parole qui est passée un peu dans le vocabulaire populaire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Et ce qui m'a, moi, beaucoup interpellée, c'est justement... Qu'est-ce qu'il perd en plus de ses pertes pour finir par maudire le jour où il est né?
Et alors, vous, Frédéric Lechterflack, pourquoi avez-vous retenu aussi le livre de Job dans votre essai?
C'est d'abord le plus ancien récit dont on dispose sur cette question du mal, de la souffrance des innocents et des justes. Et c'est un texte ressource qui, à ce titre, a été beaucoup commenté, réécrit, relu. Et puis, c'est surtout un exemple comble. Au fond, Job, ce qui lui arrive, c'est le pire de ce qui peut arriver à un être humain. Tout y est, vous avez rappelé les composantes de son malheur. C'est tellement excessif, c'est tellement abusif, ce qui lui tombe dessus, que... Face à une telle avalanche de malheurs, face à un tel scandale de ce qui arrive à ce personnage, aucune des raisons un peu faciles qu'on peut se donner de justifier le malheur, l'accident, la malchance ne tient. Et c'est à ce titre que ce récit, en fait, on peut le suivre, on peut prendre appui sur lui pour essayer de comprendre ce qui se joue derrière cette question du mal.
Oui, alors on peut apprendre à partir de ce récit. Et ce qui est très important dans le récit aussi, c'est les amis qui viennent voir Job. Que retenir justement de cette intervention des trois amis, Marion Muller-Collard?
Mais il y a ces premiers jours, ces sept jours rituels du deuil dans lesquels ils ont l'élégance de se taire. Et c'est vrai que face à ce comble de malheur dont parle Frédéric, eh bien, on est muet. Il y a cette sidération qui nous saisit comme elle semble saisir les amis à ce moment-là. Et puis, ils sont rattrapés par la nécessité de s'extraire de la sidération. Et ils le font en essayant de refabriquer du sens, en fait. Et je trouve que ça nous renvoie aussi à nos réflexes humains encore contemporains, d'avoir besoin de fabriquer un système explicatif du mal pour se sentir à l'écart de la menace. Et puis surtout, quand ça frappe l'autre, pouvoir se dire qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ou que j'évite de faire pour que ça ne me frappe pas moi-même. Donc c'est vrai que le malaise grandit entre Job et ses trois amis. Et d'ailleurs, Job finit par cesser de leur parler en parlant directement à Dieu. C'est la seule personne à qui il ne cesse pas de parler, c'est Dieu. Oui.
Mais quels sont les systèmes explicatifs auxquels ils ont recours pour précisément rendre compte de ce malheur que vous avez qualifié l'une et l'autre d'excessif?
Le premier réflexe de Job, c'est se dire « pourquoi moi ?» C'est le réflexe de tout un chacun frappé par une catastrophe. « Pourquoi moi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» dans la version de la comédie. Et les trois amis, dans ce « pourquoi moi ?» que va formuler Job, eh bien, ils entendent résonner dans leur tête « mais oui, après tout, pourquoi lui ?» Et ce « pourquoi lui ?» ça devient une vraie question pour eux. Ils ont besoin d'y répondre parce qu'ils ont grandi dans l'idée, dans le dogme que les justes fleurissent, les méchants périssent, hein, que l'honnête homme est récompensé, le méchant est puni, qu'il y a une justice en ce monde et que Dieu y veille. Et voilà qu'il y a un démenti puisque Job est l'homme le plus extraordinaire qui soit. Et ce démenti, il est insupportable pour les trois amis. Et donc, il faut qu'ils trouvent une solution pour résorber cette contradiction. Et ce qu'ils vont construire, au fond, c'est une théodicée aux dépens de leur ami Job. Ils vont préférer considérer que ce malheur qui lui arrive n'est pas sans explication, que ce malheur, au fond, reste dans le cadre d'explications classiques de la punition, du châtiment. Si c'est une punition dans le cadre classique, c'est donc que Job a commis des fautes, a commis des péchés. Et plus il refuse de les reconnaître, plus il campe raide sur sa bonne foi.
Sur son innocence. Il revendique son innocence.
Alors, c'est pas tout à fait une innocence complète, mais en tout cas, il dit « je n'ai rien fait qui mérite un châtiment aussi disproportionné. Peut-être que j'ai eu des mauvaises pensées, tout le monde en a un jour ou l'autre, mais rien qui mérite un châtiment pareil. » Et plus Job campe sur cette innocence, plus il tient bon face à la pression que lui mettent les trois amis, et plus le ton des trois amis devient extrêmement violent, puisque l'enjeu, c'est toute leur vision du monde, et donc ils préfèrent sacrifier leur ami, Job. Au départ, c'était des bons amis, hein, Marion Muller-Collard l'a rappelé. Au départ, ils arrivent des quatre coins du monde, ils accourent à son chevet pour veiller à ses côtés pendant les 8 jours de deuil. Et d'ailleurs, au départ, il lui propose une solution qui peut être une solution d'amitié. Il lui propose un moyen de reprendre le contrôle sur son destin. Il lui propose une solution qui consiste à dire, au fond, ce qui t'arrive, c'est pas au hasard, c'est pas de l'aléa, c'est pas n'importe comment. Peut-être que tu as fait quelque chose qui te vaut ça, et que du coup, tu peux reprendre le contrôle sur ta propre existence en demandant pardon, en te repentant, en cherchant ce que tu as fait de mal. Mmh. Et c'est à partir du moment... Et donc ça, c'était potentiellement une solution, mais à partir du moment où Job s'y refuse, pour eux, la situation devient insupportable.
Alors, je rappelle que la théodicée, c'est un terme que l'on doit à Leibniz, la justice de Dieu, et c'est devenu... Enfin, la partie de la théologie, nous dit de Littré, qui traite de la justice de Dieu et qui a pour but de justifier sa providence en réfutant les objections tirées de l'existence du mal. Alors, ce qui est étonnant, c'est que au fond, le christianisme, avec la doctrine du péché originel, eh bien, reconduit, me semble-t-il, les arguments des amis de Job. Je citerai ici Pascal, « Il faut que nous soyons coupables ou Dieu serait injuste ». Et aussi Joseph de Maistre, très tranchant, comme à son habitude, « Nul n'est puni comme juste ». Mais toujours comme homme. Et en tant qu'homme, il est forcément pécheur. Et ne serait-ce que parce qu'il a part au péché originel. Donc on pourrait se demander si la théologie, finalement, eh bien, soit une manière, c'est aujourd'hui une manière, ou ça a été une manière d'accompagner, en fait, de souscrire au discours des amis de Job. Marion Muller-Collard.
Oui, alors sacrifier l'homme plutôt que sacrifier Dieu, c'est,
oui, on peut dire ça
c'est
comme
un
ça.
Peu le rôle de la théologie à travers l'histoire. Ce qui est très intéressant dans le livre de Job, c'est que quand Dieu se manifeste enfin, parce que c'est quand même le grand silencieux de l'essentiel des chapitres du livre, il ne se manifeste pas en tant que justicier. Il se défend même d'être garant de justice. En tout cas, moi, je le relis comme ça, en disant à un moment donné à Job, mais si toi, tu sais dominer les méchants, je m'inclinerai devant toi. Et ça m'a beaucoup interpellée par rapport à la projection, à quelle image on se fait de Dieu aussi, et quel rôle on lui attribue par rapport au destin, par rapport à la question du sort, de la vie. Et voilà, il y a des théologies alternatives quand même qui existent, notamment dans la Kabbale, avec l'idée du Tzimtzum, de cette rétractation de Dieu à qui, du coup, la création échappe en partie. Et donc, ça interroge, effectivement, soit la culpabilité de l'homme, soit la toute-puissance de Dieu.
Donc, votre tentative dans cette lecture du livre de Job, Marion Muller-Collard, c'est justement de penser autrement Dieu ou de penser un autre Dieu que celui de cette théologie classique. Et vous faites un sort notamment à cette interpellation, cette apostrophe de Yahvé à Job. Où étais-tu lorsque je fondais la terre? Mais on pourrait vous dire que là, Dieu s'en prend à l'impudence d'une créature qui se permet de juger le créateur et qui est incapable de connaître ses desseins. Donc à ce moment-là, on en revient à ce Dieu dont les voies sont impénétrables, mais qui intervient dans l'histoire et qui ne punit ou qui ne fait jamais souffrir un mauvais escient. Vous en donnez, je crois, une toute autre interprétation, Marion Muller-Collard.
Oui, parce qu'en effet, cette question de « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» pour moi, elle renvoie au premier monologue de Job quand il craque, en fait. Il tient bon pendant un temps, et puis à un moment donné, il craque, et il maudit non pas Dieu, mais le jour où il est né. Et ce monologue de Job, en fait, est une antithèse du récit créateur de Dieu. Il commence par ces mots « Yirrocher, que la ténèbre soit », c'est-à-dire l'exacte antithèse des premiers mots créateurs de Dieu, « Yé or, que la lumière soit ». Et je pense que ce que Dieu défend à ce moment-là, c'est son acte créateur. C'est-à-dire qu'il supporte la dépression, il supporte la plainte, il supporte même de se faire traiter de tous les noms par Job. Mais ce qu'il ne supporte pas, c'est qu'on touche à sa création et qu'on remette en cause le credo fondamental par lequel nous pouvons vivre, c'est de redire avec ce ou celui qui a créé le monde, ben que cela est bon, que oui, il y a quelque chose plutôt que rien et que c'est peut-être mieux comme ça. Et je crois que c'est là que Dieu interpelle Job, c'est-à-dire n'entraîne pas le bien fondé de tout ce qui est dans ta ruine personnelle, dans ton mal-être. Et c'est bien ça l'enjeu aussi qu'on retrouve à travers la littérature.
Oui, alors, Marion Muller-Collard, vous dites dans votre livre, enfin, vous montrez dans votre livre que vous êtes revenu au livre de Job, pour des raisons personnelles. Votre enfant, votre nourrisson même, a été atteint d'un virus respiratoire qui obstruait ses poumons et le menaçait d'asphyxie. Donc pendant une période, il a été hospitalisé et vous pensiez qu'il risquait de mourir. Alors, la question que je me pose, c'est en quoi la lecture du livre de Job vous a-t-elle aidé à traverser cette épreuve? Et si l'épreuve s'était terminée en tragédie, ce livre aurait-il pu continuer à vous aider?
La deuxième question est particulièrement difficile. Mais pour la première, c'est qu'en fin de compte, j'avais travaillé intellectuellement à la question du mal, mais je n'avais pas été travaillée dans ma chair par la question du mal, et je l'ai été a posteriori. Et le seul compagnon que je trouvais valable dans ce moment-là était effectivement Job, c'est-à-dire d'assumer aussi, d'aller au bout de la plainte, d'écumer la plainte par la plainte. et de ne pas céder trop rapidement à la tentation de recréer un sens artificiel avec ce malheur. C'est de plonger entièrement dans le malheur au sens étymologique du terme, avec ce heure qui dit quelque chose de la fatalité, du destin, du sort, de l'aléa, et de pas essayer de fabriquer absolument les choses. Et je me suis retrouvée avec tous les amis de Job. J'ai de très bons amis que je remercie pour leur soutien, mais j'ai vu beaucoup de réflexes comme ça, d'essayer de comprendre qu'est-ce que j'avais pu faire pendant ma grossesse, et ça allait ça bricolait, quoi. Ça bricolait parce que, comme le dit très bien Frédéric Leichterflack aussi dans son livre, on est tenté de fabriquer du sens, et je suis pas sûre qu'on ait la même lecture par rapport à ça, parce que moi, ce qui m'a interpellée dans le livre de Frédéric Leichterflack, c'était justement de dire pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas fabriquer du sens à tort et à travers? J'ai un peu entendu ça. Et moi, c'est vrai que dans ce moment-là, je suis très résistante à ce retour de la pensée magique, religieuse, de présupposer qu'il y aurait une justice qui arbitrerait nos vies. Et je crois qu'il est important, à certains moments, de renoncer à cette idée-là.
Frédéric Leichterflack.
Le livre de Job peut servir de ressource, trouver des réponses ou des solutions, mais pour porter les questions que la vie nous impose au détour d'une malchance, d'un aléa personnel. Et au fond, il y a mille et une manières de rencontrer la question du mal dans sa propre existence. Vous avez donné un exemple extrême, Alain, mais il y a d'autres façons de rencontrer cette question. L'enfant la rencontre sous la forme de sa première découverte de l'injustice du monde. Ça peut être une maladie, ça peut être un tremblement de terre, ça peut être une guerre. Il y a toutes sortes de manières de rencontrer cette question. Et au fond, le livre de Job, mais également d'autres traversées du malheur dans la littérature, puisque mon livre part du livre, oui, de Job, mais propose un parcours qui va jusqu'à la littérature contemporaine à travers cette question du mal. Au fond, toutes ces manières littéraires, tous ces récits de la traversée du mal nous offrent des ressources auxquelles prendre appui quand ça nous arrive. D'une certaine manière, les personnages prennent le premier coup pour nous et nous apprennent à traverser les questions que nous renvoie notre propre existence comme un champ de mines dans lequel on sait où sont positionnées les mines.
Alors, moi, j'ai du mal, je l'avoue, à trouver une ressource dans le livre de Job à cause de la fin, à cause du happy end que je vous demanderai de commenter. Je vous demanderai aussi d'ailleurs si les exégètes ont réfléchi à cette fin, puisque c'est la grande réconciliation. Job dit au Seigneur qu'il a commencé par maudire. Je sais que vous pouvez toutes choses et qu'il n'y a point de pensée qui vous soit cachée. Et puis, le Seigneur se laisse fléchir à la pénitence de Job. Et alors, que se passe-t-il? Eh bien, il le bénit dans son dernier état, encore plus que dans le premier. Il eut 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Mais j'apprends aussi qu'il eut, alors là, dans la traduction à laquelle j'aime bien me référer, parce qu'elle est très ancienne et très belle, de Le Maître de Sacy, on dit il eut aussi 7 fils et 3 filles. Dans d'autres traductions, il en a eu 14. Donc, 4 de plus. Alors, que demande le peuple? Mais là, ça m'a terrifié. Parce que je me suis dit, donc, même dans la Bible, être, c'est être remplaçable. Il en avait 10, il en avait 14, donc il est comblé. Et comme si la religion était faite, en quelque sorte, pour démentir le tragique. Être, c'est être remplaçable. Donc, il n'y a pas forcément d'irréparable. Alors que la mort d'un être cher, il me semble que c'est l'irréparable même. Alors, que faites-vous de ce happy end? Et qu'en disent les théologiens ou qu'en disent aussi les docteurs du Talmud? Parce que moi, j'ai été complètement effaré. Marion Muller-Collard.
Et je crois que tout le monde se casse les dents sur ce happy end. Et moi aussi, mais ce que je trouve intéressant, c'est l'ambivalence que ça trahit. C'est-à-dire qu'il y a une tentative, un essai, peut-être de ce que le théologien que j'aime beaucoup, Paul Tillich, théologien protestant, oui, appelle le courage d'être. Il y a un essai du courage d'être chez Job, de tenir sans pourquoi, et de tenir en dépit de l'effondrement d'un système qui était censé le protéger. De répondre positivement à la question du Satan. Oui, c'est pour rien que je suis en relation avec le Créateur. C'est gratuit. Quelque chose de l'ordre de la grâce. Et en même temps, bon, alors on sait aussi que les couches rédactionnelles du livre sont différentes l'une de l'autre, mais c'est vrai qu'on est tenu de prendre au sérieux, en dépit des différentes sources et des différents auteurs présupposés, le fait que le livre a été construit comme ça et a été transmis comme ça. Et moi, j'y vois un écartèlement qui traverse de toute façon tout le corpus biblique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule théologie dans la Bible. Ce serait trop facile. Et je vois frotter dans ce livre une tentative de renoncer à Dieu comme garant et justicier, et puis un retour irrépressible pour qu'on puisse tenir. Et finalement, psychiquement, on fait tout ça. C'est-à-dire qu'au fond de nous, on sait très bien que la menace est là. C'est notre condition de mortel, de se savoir précaire, de savoir que le coup peut tomber à n'importe quel moment. Et en même temps, tous les matins, eh bien, on l'oublie, parce que sinon, on aurait peur de sortir de son lit. Donc, moi, je vois, en fait, dans ce livre-là, une construction très humaine, et en même temps, une percée comme ça, très courageuse et complètement, incroyable pour l'époque. Incroyable pour l'époque, dans un milieu aussi, aussi religieux, d'avoir cette audace de dire non, non, je ne suis pas coupable et je sacrifierai Dieu plutôt que de sacrifier mon honneur, ma dignité, mon intégrité.
Et vous, Frédéric Le Chatard, faites-vous de ce happy end ?
Alors ce happy end, il est encore plus terrible que ce que vous décriviez, Alain, puisqu'il y a encore un détail supplémentaire qu'il faut préciser. Les nouvelles filles de Job sont encore plus belles que les anciennes.
J'avais oublié ce détail.
Mais justement, alors face à un détail comme celui-là, qui évidemment nous choque, nous fait rire, il y a deux manières de réagir. Soit on considère que le texte biblique manque singulièrement de psychologie et qui passe complètement à côté du problème des cicatrices, du trauma, de la blessure, comment est-ce qu'on se remet de la perte. Soit on considère qu'au contraire, ce détail est comme un indice par lequel le texte biblique attire notre attention sur le fait que cette fin n'est pas une résolution, ça n'est pas une solution. Au fond, c'est pas le problème du mal, n'est pas un problème qu'on peut résoudre, qu'on peut boucler ou résorber. Et cette fin, elle pose un problème à plus d'un titre, parce que regardez, c'est le modèle même du happy end. Toutes les histoires tristes se terminent en happy end, au fond pour essentiellement deux raisons. D'abord parce que le happy end est la rétribution du mérite à bien souffrir de la personne éprouvée. Hein. Comment vous êtes dans le malheur, comment vous êtes dans l'épreuve, va vous valoir ou non ce happy end. Et d'autre part, le happy end, c'est ce qui rend l'histoire triste lisible, tolérable, supportable pour le lecteur. Et c'est cette fonction-là qui est remplie dans le livre de Job. Sauf que il y a des anomalies, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Le livre de Job nous enseigne précisément que la doctrine de la rétribution ne tient pas, que le malheur n'arrive pas en fonction de nos mérites ou de nos démérites. Et voici qu'à la fin, Job serait récompensé à la hauteur de son mérite dans l'épreuve. Il y a une incohérence tellement centrale, tellement visible, que le texte attire notre attention sur ça pour nous dire là, il y a un problème. Et que cette fin ne soit pas satisfaisante, qu'elle soit satisfaisante pour personne, c'est une évidence. Alors, il y a toutes sortes de manières, là encore, de bricoler avec cette difficulté. Certains exégètes considèrent qu'au fond, on rend à Job ses enfants, qu'ils n'étaient pas vraiment morts, que c'était pour de faux. Mais est-ce que ça répare quelque chose ? Il a souffert pour de vrai, même si ses enfants n'étaient pas vraiment morts. Donc, il y a là une série d'anomalies, il y a quelque chose qui ne va pas, et qui souligne effectivement le fait que, dans la vie, il y a de l'irréparable. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être heureux quand même après. Et ce qui est très beau dans une des versions littéraires, dans une des réécritures littéraires du livre de Job, la version de Joseph Roth, cet écrivain juif autrichien du début du siècle, dans Job, roman d'un homme simple. Il reprend l'histoire de Job dans un contexte moderne et il modifie un tout petit peu la fin. Il nous fait comprendre plus exactement, grâce au talent de la littérature, comment on peut être heureux et avoir de la gratitude pour la vie, pour le monde, pour Dieu, malgré les malheurs qu'on a traversés. Comment on peut être heureux, même quand on a perdu ses enfants ? Avec d'autres enfants, avec d'autres manières de vivre, il peut y avoir à nouveau du bonheur, mais ce bonheur n'est pas une compensation et pas une réparation pour le problème qui reste évidemment grand ouvert.
Oui, alors c'est cette gratitude, Marion Muller-Koller, que vous mettez en avant justement dans l'autre Dieu, c'est-à-dire l'autre Dieu, c'est le Créateur qui a créé un monde bon, un monde admirable, Et c'est à cet autre Dieu qu'on peut s'adresser dès lors que la religion est plus d'un système, comme vous le dites, et notamment un système de rétribution, mais une relation. C'est bien cela, j'ai compris.
Oui, oui, tout à fait. Et ouais, je ne dirais pas qu'il a créé un monde admirable. Je reprendrai l'expression de Winnicott qui parle des « good enough mother ». C'est un « good enough world ». Et je crois que c'est ça qu'il essaye de dire à Job dans sa réponse.
Oui, alors là, justement, je voudrais, Frédéric Lechtafla, que vous nous parliez d'une nouvelle de Maupassant que j'ai découvert grâce à vous. Coco. Cinq pages. Qui sont absolument terrifiantes, extraordinaires, et notamment les dernières lignes. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, c'est une nouvelle que j'ai. C'est une nouvelle de Maupassant que j'ai découverte ou redécouverte il y a quelques années quand une de mes filles est rentrée de l'école à 12 ans, traumatisée par la découverte qu'elle venait de faire, qui était la découverte du problème du mal. Au fond, cette nouvelle, elle est connue généralement et enseignée pour sa chute. C'est la chute de cette nouvelle est suffisamment significative pour que les professeurs de français l'enseignent au collège et au lycée pour donner un exemple de comment marche une chute. Mais ça raconte l'histoire d'un cheval trop vieux pour servir encore, mais que sa maîtresse aimait beaucoup, qui était cher à sa maîtresse et auquel elle veut épargner l'abattoir. Et ce cheval est confié aux soins d'un petit paysan chargé de l'emmener au pré, paître tous les jours. Mais le gamin supporte pas la tâche qui lui est confiée. Il est jaloux du cheval, il comprend pas pourquoi on le traite avec autant d'égard, ça n'est qu'une vieille rosse. Lui-même, cet enfant pauvre, n'a jamais été traité avec autant d'égard. Et il va avoir cette idée épouvantable de faire payer le cheval pour la blessure narcissique qu'il éprouve lui. Et ce cheval va être laissé à mourir de faim, attaché au milieu du pré, au milieu de l'herbe verte, qu'il ne peut pas atteindre. Et ce qui est terrible dans cette nouvelle, donc ce cheval qui meurt, ce qui est terrible, c'est que quand il meurt, personne ne s'étonne. Il était tellement vieux que personne ne trouve ça anormal. Le maître donne l'ordre à ses valets qu'il soit enterré exactement là où il a crevé, dans l'herbe. On fait un trou exactement à cet endroit-là. Et Maupassant conclut, et l'herbe poussa dru, verdoyante, vigoureuse, nourrie par le pauvre corps. Et c'est cette chute qui est absolument épouvantable, qui est saisissante, et tout y est, et c'est pour ça que c'est une très bonne porte d'entrée sur la question du mal, tout y est, parce qu'au fond, la nature tout entière est indifférente ou rieuse à cette question du mal qui, nous humains, nous fait tellement souffrir. Ce problème du mal n'en est un que pour nous, nous les victimes, nous qui accordons de l'importance à nos vies, qui avons des espoirs, qui avons des projets, qui investissons dans la relation avec nos êtres chers. Mais la nature, le monde, Dieu, si vous voulez l'appeler comme ça, s'en fiche.
Voilà, et ça, j'ai été effectivement très frappé par cette conclusion. Et l'herbe poussa dru, verdoyante, vigoureuse, nourrie par le pauvre corps. Cette conclusion de Coco, un des contes du jour et de la nuit de Maupassant. Et pour les raisons que vous dites, Frédéric Lechtafla, parce que, oui, Dieu a créé le monde, et vu que cela était bon, mais la nature, on a l'impression qu'elle est indifférente et même qu'elle absorbe la mort, qu'elle en détruit le scandale. Rien n'arrête le processus vital et en plus, la mort est recyclée. Il y a donc comme une obscénité de la nature et je me dis que l'humanité de l'homme, ça reste d'affronter le scandale de la mort, avec les rites funéraires notamment, avec les commémorations, avec la culture qui est, comme dirait Alain, le culte des grands morts. C'est-à-dire ne jamais laisser le dernier mot à la nature. Donc, je ne vois, voilà pourquoi je ne suis pas sûr d'adhérer complètement à votre vision de l'autre Dieu, si tant est que je la comprenne, Marion Miller-Collard, si tant est que je la comprenne.
Alors, que la culture soit notre notre devoir, si ce n'est notre réflexe, pour nous opposer de toutes nos forces, pour résister au mal et au malheur, ça, sans aucun doute, avec cette problématique un peu particulière dans la nouvelle Coco, qui est que on n'est pas face à du malheur, à de l'aléa, on est face à de la violence, à du mal commis. Donc c'est encore un peu un autre registre. Mais cependant, cette indifférence de la nature, je trouve, par moment, peut aussi être une consolation. On peut aussi avoir cette double consolation. La consolation humaine de non seulement des rites, mais aussi des récits. Je trouve très fort, justement, cette galerie littéraire que propose Frédéric Lichterflack, de montrer, en fait, comment la littérature, comment on fait récit. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas la meilleure alternative à faire système que de faire récit. En revanche, pour ma part, je suis plutôt consolée de savoir que le vivant domine ma propre vie. Et c'est d'ailleurs cette anecdote que je raconte dans le livre, c'est que mon fils qui survit, alors aurais-je écrit ce livre s'il n'avait pas survécu ? C'est une autre question. Mais mon fils qui survit va un jour s'émerveiller devant un paysage de montagne qu'il retrouve, qu'il reconnaît, alors qu'il est tout petit, il reconnaît pour la première fois quelque chose de très vaste en plus. Donc voilà, cette petite chose de culture va venir poser des mots sur cette immensité à sa disposition en me disant, pas vrai maman que tout ça continue quand on est mort? Et je me suis dit, mais waouh, enfin, cette sagesse de dire, bon allez, moi je passe, mais quelque chose continue, quelque chose dure. Moi je trouve ça plutôt joli. J'ai pas ce regard aussi pessimiste et cruel que vous par rapport à cette nouvelle.
Ah, c'est la nature que je trouve cruelle.
Je la trouve
obscène. Mais je suis très sensible à ce que vous dites. Mais je pense qu'il y a une obscénité du cycle vital qui est merveilleusement décrite dans cette dernière phrase de Maupassant.
Moi je suis pas d'accord avec vous. Alain, parce que il me semble que c'est précisément l'effet de chute qui crée cette espèce de court-circuit entre la nature, ben, qui fait son travail de nature, qui continue à être florissante, à verdoyer au printemps, et la souffrance des êtres humains, ou en l'occurrence des êtres vivants. C'est la littérature qui va créer le scandale, qui va faire vibrer cette espèce de colère que nous avons. Et la question que soulève Marion, c'est au fond jusqu'où est-ce qu'on maintient cette colère? Jusqu'où est-ce qu'il faut la tenir? Et il y a une question éthique derrière tout ça. Est-ce que cette colère, elle a une signification éthique? Elle a de la valeur, elle défend la dignité humaine. Elle défend le fait que nos êtres chers, nos projets, nos attentes, nos espoirs ont de la signification, ils valent pas rien. Le malheur n'est pas rien. On peut pas s'en débarrasser comme d'un non-sujet, comme le font parfois certaines théodicées. Mais une fois qu'on a allumé cette étincelle de l'indignation insatiable de la littérature face au problème du mal, l'expression est de Dostoïevski dans le discours d'Ivan Karamazov, une fois qu'on a allumé cette étincelle de l'indignation insatiable, jusqu'où on prolonge sa colère? Est-ce qu'il y a un moment, cette colère qui avait une signification éthique ou une valeur éthique au départ, est-ce qu'il y a un moment où il faut la remplacer par autre chose, par une réadhésion au monde, par une réadhésion à la vie, ou par une manière de combattre tout simplement le mal dans le réel? Mais en tout cas, on peut pas rester bloqué sur cette colère. On ne peut pas rester figé sur ce refus de vivre?
Non, on ne peut pas rester figé sur ce refus de vivre. Mais il est important, me semble-t-il, de préserver l'idée d'un scandale de la mort. Mais la question que pose Job, c'est une foi sans théodicée, est-elle possible? Vous donnez votre réponse, Marion Muller-Collard, dans L'autre Dieu. Mais il y a d'autres réponses aussi, peut-être naïve, mais dont on doit tenir compte. Une amie me racontait qu'une amie à elle, au demeurant traductrice de Nietzsche, avait été ramenée à la foi, était protestante à l'origine, par un événement. Et cet événement, c'était quoi? C'était la mort de son chien. Son chien est mort dans un accident, était percuté par une voiture. Un instant d'avant, il gambadait, il courait. Et tout d'un coup, elle s'est dit, C'est tout à fait incroyable. Cette vie doit être quelque part. C'est très étrange, parce que, justement, il semblerait que la vie éternelle soit réservée aux êtres dotés d'une âme, donc aux êtres humains, et quand on est confronté à la mort d'un chien, on est peut-être amené à se dire « En quoi ma mort serait-elle différente ?» Donc c'est plutôt la contemplation du néant. Mais là, non, cette vie doit être quelque part. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir une consolation, quand bien même Dieu ne serait pas tout puissant, dans l'idée d'une vie éternelle, d'une récompense après la mort, ou d'une compensation pour tous ces justes et pour ces innocents qui souffrent de malheur ou même de l'injustice, laquelle peut aller jusqu'à l'extermination. Alors, que faites-vous de cet autre Dieu, de cette autre idée de la religion, Marion Millecolard?
Un Dieu a l'avantage d'être suffisamment discret pour qu'il soit un immense champ projectif. Donc chacun peut y projeter à son aise ce dont il a besoin. Je le conçois bien. C'est les retours de bâton qui sont cruels en l'occurrence quand on projette sur Dieu justement l'image du juste. Qu'est-ce qui tient en fait et combien de temps ça tient et qu'est-ce que je dois lâcher pour que ça tienne encore? À quoi je tiens le plus pour frayer mon chemin dans la vie face au malheur quel qu'il soit, y compris dans la perte d'un animal, ça je l'entends très très bien. En revanche, c'est vrai que vous parlez de foi, et pour moi la foi se distingue de la croyance en ce qu'elle est une dynamique et qu'elle peut quasiment s'affranchir de toute forme d'objet et de contenu. Et c'est un peu ça que j'apprends de Paul Tillich, de ce livre pour moi vraiment fondamental qui est « Le courage d'être ». Où il parle justement de la foi non pas comme un système qui va nous protéger et nous préserver de ce qu'il dénomme et dénombre être les trois grandes angoisses ontologiques, mais qui est capable d'intégrer la menace, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas tellement de consolation, justement, et ça préserve le mal comme scandale. Moi, je suis une croyante qui préserve totalement le mal comme scandale, sans difficulté. Si ce n'est viscéral, justement, puisqu'il s'agit de garder, d'accepter, de traverser viscéralement ce scandale-là. Mais la proposition de Tillich, c'est vraiment d'être dans une dynamique, dans une participation à l'être plutôt qu'au non-être. Et j'étais sensible à ce que disait Frédéric, c'est-à-dire à un moment donné, voilà, de garder la révolte quand elle est mobilisatrice, quand elle conduit à l'action, à l'engagement pour plus de justice, mais d'abandonner, de laisser s'épuiser la plainte. Ça prend le temps que ça prend. J'ai longtemps été pasteur en milieu hospitalier, donc j'ai assisté ce temps-là que ça prend pour que la plainte s'écume, pour pouvoir un jour voilà rouvrir ses volets.
Mais alors vous étiez en milieu hospitalier, vous écoutiez la plainte, mais est-ce qu'à la plainte vous apportiez l'espoir de la vie éternelle, ou est-ce que vous pensez que c'était pas tout à fait votre rôle?
Je suis pas une spécialiste en la vie éternelle.
Vous êtes croyante.
Oui, alors ça fait autre chose. La croyance, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est autre chose qu'une spécialisation et surtout autre chose qu'une connaissance. J'écoutais où était le besoin. Et puis, ce qui était vraiment mon recours, c'était le récit plutôt que le dogme, en fait. Et c'est pour ça que j'ai tellement aimé le livre de Frédéric, c'est comment est-ce qu'on se raconte tout ça?
Oui, alors, en lisant votre livre, Frédéric Lichterflack, j'ai pensé à une réflexion tout à fait extraordinaire de Clément Rosset, le philosophe Clément Rosset, dans Le réel traité de l'idiotie. Il dit ceci, le dévot est d'abord celui qui est incapable d'affronter le non nécessaire. Et vous parliez du scandale, Marion Millecolard. Vous êtes croyante, mais vous n'êtes pas dévote en ce sens. Et tout votre livre, Frédéric Lichterflack, c'est précisément montrer que la littérature, à la différence peut-être de la philosophie, qui cherche la nécessité partout, qui veut rendre raison, la littérature, justement, protège et pense l'aléa. L'aléa, le non nécessaire, l'aléa de la condition humaine. Les aléas de la condition humaine, Frédéric Lichterflack.
Oui, l'aléa, parce que il y a différents niveaux, différentes significations de nos rencontres avec le mal, avec l'injustice du sort. La première étape, l'étape enfantine, c'est celle de de l'injustice. Hein, les innocents frappés, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une mauvaise répartition. Au fond, le coup n'est pas tombé sur ceux sur qui il devrait tomber. Ça, c'est le niveau 1, si vous voulez, du scandale du mal. Et puis, en fait, quand on plonge dans la littérature, quand on plonge dans ces histoires tristes de personnages frappés par des malheurs, on se rend compte que on dépasse assez rapidement ce niveau de l'injustice, de l'innocence bafouée, et qu'au fond, le vrai problème, c'est pas tellement que la justice soit mal établie ou qu'il y ait un problème d'affectation du malheur, mais c'est que tout ça marche de manière complètement aléatoire, que les biens et les maux sont répartis sans aucun ordre à la surface de la Terre. Et c'est ça qui est épouvantable à affronter et à accepter d'une manière ou d'une autre. Et donc la question de l'aléa, du hasard, au fond, même quand on est un grand physicien qui connaît parfaitement les lois de la balistique et qui peut expliquer pourquoi dans un attentat, c'est telle personne qui a été tuée alors que telle autre, sa voisine de table, s'en sort indemne parce que la balle a ricoché au mauvais au bon endroit, on ne peut pas expliquer à la fin pourquoi c'est telle personne qui meurt et pas telle autre. Il y a quelque chose qui résiste dans notre perception de l'aléa, dans notre perception de la malchance, dans notre perception du hasard, qui bute et qui résiste sur l'explication et la rationalisation.
Oui,
c'est ça que la littérature va venir prendre en charge sous la forme de cette question qu'elle maintient ouverte, de ce scandale qu'elle maintient incandescent.
Oui, et notamment un livre dont vous parlez, Frédéric Lechterflack, qui est le dernier roman de Philip Roth, Némésis. Bucky Cantor est à Newark, c'est une uchronie. Philip Roth imagine une épidémie de poliomyélite pendant la guerre, il n'est pas mobilisé à cause de sa myopie, il s'occupe d'un camp d'entraînement à Newark. Et
d'un terrain de jeu
à Newark, et il lui arrive lui-même d'être touché par cette poliomyélite. Par les avantages de ce roman, Frédéric Lechterflack.
Au fond, Philip Roth veut réfléchir sur la question, à mon sens, de la Shoah et de cet immense mal qui ne peut pas être rattrapé dans des cadres explicatifs. Cette colère qui a formé plusieurs générations, dont la mienne. Moi, je suis pas croyante, mais je suis l'héritière de cette grande incompréhension, de cette grande fâcherie, au fond, des Juifs avec Dieu. Comment un Dieu a-t-il pu laisser faire ces 6 millions de morts de la Shoah, ces 1,5 million d'enfants? Et il me semble que Philip Roth, c'est aussi à partir de ça qu'il écrit. Il est probablement encore plus en colère que moi, puisqu'il a une détestation, bien sûr, de la religion et de ses rites, un refus même d'essayer de comprendre à quoi ils peuvent servir, ces rites. Mais c'est ça qu'il va mettre en scène à travers cette fable du virus qui vient faucher une vie par là, une vie par ici. Et la polio, c'est ce virus qui s'attaque aux enfants. De préférence. Et l'enfant, c'est là encore, c'est le comble du mal, c'est la figure, c'est le marqueur moral du mal. Depuis Dostoïevski et le discours d'Ivan Karamazov, on sait qu'un enfant qui souffre, un enfant qui meurt, c'est immédiatement un symbole, c'est un marqueur moral. Et c'est de là que repart Philip Roth, héritier de toute cette littérature, pour construire cette fable d'une épidémie de polio qui vient frapper un quartier juif de la ville de Newark en 1944. Et un enfant, de temps en temps, est frappé et meurt. Et le héros ne comprend pas ce qui se passe, ne supporte pas ce qui se passe. Et les réponses, les manières de réagir des parents, des voisins, des habitants du quartier, lui sont absolument intolérables. Au fond, ils ne comprennent pas qu'on puisse aller enterrer son enfant, réciter le kaddish et bénir Dieu avec ce qui vous est arrivé. Et pour lui, c'est comme se prosterner devant un assassin d'enfant. Alors bien sûr, c'est une réaction très puérile, très infantile. C'est une réaction qui refuse de comprendre la vraie signification du rite, qui n'est pas une bénédiction des actions de Dieu, pas du tout. C'est une manière de se tenir chaud dans la détresse avec sa communauté rassemblée autour de soi. Donc il y a un côté buté du personnage. Mais au fond, son conflit, son contentieux n'est pas avec Dieu dans ce récit. Son contentieux est avec les autres hommes, avec la manière des autres hommes de s'accommoder trop facilement du scandale, de finalement passer le mal aux pertes et profits et de continuer à vivre comme si un enfant n'était pas mort. Et c'est ça qui rend fou le personnage de Philip Roth.
Oui, alors Ce que vous dites m'évoque une autre phrase de Lévinas cette fois. La disproportion entre la souffrance et toute théodicée se montra à Auschwitz avec une clarté qui crève les yeux. Le mot de Nietzsche sur la mort de Dieu ne prenait-il pas dans les camps d'extermination la signification d'un fait quasi empirique? Mais il y a encore quelque chose de plus pour Bucky Cantor, parce que cet homme est lui-même atteint du virus, il est allé dans un camp de vacances, il a peur d'avoir contaminé des enfants, et lui qui maudissait Dieu tel Job en vient en quelque sorte à se maudire lui-même, il est frappé de culpabilité, et ce que nous montre Philippe Roth, c'est que sa vraie folie, sa vraie pathologie, c'est la pathologie de l'interprétation. Il lui faut trouver une cause à ce qui arrive, une nécessité à ce qui se passe, écrit Philippe Roth. Il y a une épidémie, il a besoin de lui découvrir une raison, il faut qu'il se demande pourquoi, que cela soit gratuit, contingent, absurde et tragique, ne saurait le satisfaire, que ce soit un virus qui se propage, ne saurait le satisfaire. Il cherche désespérément une cause plus profonde, ce martyr, ce maniaque du pourquoi, et il trouve le pourquoi soit en Dieu, soit en lui-même, ou encore de façon mystique, mystérieuse, dans leur coalition redoutable pour former un destructeur unique. Donc voilà, il y a aussi ça dans cette dévotion, cette recherche d'une nécessité. Donc il n'est pas dévot, il ne croit pas en Dieu, mais il est pris dans un système d'explication dont il n'arrive pas à se sortir.
Le passage que vous venez de citer, Alain, c'est pas Philippe Roth lui-même qui écrit cela à propos de son personnage, c'est le narrateur, c'est-à-dire un personnage qui lui-même a été frappé par la polio, a choisi de surmonter cette épreuve d'une manière toute différente de celle du personnage principal, Bucky Cantor, et qui interprète à sa manière la trajectoire de vie de Bucky Cantor. Et là où je suis en désaccord avec vous, c'est qu'il me semble que Arnie, le narrateur, personnage, en fait, n'a pas forcément raison dans son interprétation de Bucky Cantor. Bucky Cantor, son problème avec le virus, son problème avec l'aléa, son problème avec la tyrannie de la contingence, commence bien avant le moment où il est pris du soupçon, de la crainte, de la terreur d'avoir été lui-même le porteur sain qui a contaminé tous les autres enfants. Ça démarre avant, ça démarre au moment où sa fiancée le retrouve après plusieurs semaines de séparation au milieu de l'épidémie et qu'elle dit « Dieu merci, Dieu soit loué, tu es vivant, tu es sain et sauf, je te retrouve » et qui lui bat froid, qui lui tombe dessus avec une grande violence parce qu'elle a béni Dieu de le retrouver vivant alors que tant d'autres n'ont pas retrouvé les leurs vivants. Son problème avec la tyrannie de la contingence ne démarre pas avec la culpabilisation dont Arnie, le narrateur, pense qu'elle est la clé de lecture du personnage. Et c'est pour ça que je suis en désaccord avec vous sur ce
sujet. Oui, on ne peut pas aller trop loin dans cette discussion. Toujours est-il que Arnie Mesnikov, en effet, est malade. Et lui, il s'en sort. Il s'en sort parce que il épouse la femme qu'il aime, alors que désespéré de trouver cherchant à tout prix à trouver une cause et la trouvant en lui-même, Bucky Cantor renonce à l'amour de sa vie, Maria, puisque celle-ci lui dit mais on peut rester ensemble parce que bien que tu sois malade, il dit non, ma vie va peser et donc il fait son malheur. Et le malheur de cette femme, il n'est même pas amené à en prendre conscience par la rencontre d'Arnie Mesnikov, tellement il est enfermé dans ce système d'explication, et c'est absolument pathétique, c'est bouleversant. Mais Musil parle à un moment donné dans L'homme sans qualité pour les phénomènes humains du principe de raison insuffisante. Voilà. Le principe de raison suffisante, c'est celui qui est affirmé par la philosophie. Et peut-être cela, vivre humainement, constater qu'il n'y a pas une raison suffisante pour expliquer tout ce qui nous arrive, bonheur ou malheur. Qu'en pensez-vous, Marion ?
Mais oui, et puis ce qui est très beau, c'est de voir que cette tentation d'une raison suffisante, elle dépasse les frontières entre croyants ou non-croyants, puisque là, on a manifestement, moi je suis une croyante qui accepte le principe d'une raison insuffisante, et on trouve ici un athée qui finalement retombe dans ce que j'appelle moi un réflexe religieux, c'est-à-dire de vouloir contenir le réel et le maîtriser.
Et Et on le trouve chez Hegel aussi, quand Exactement. Hegel dit le réel est rationnel, c'est-à-dire que tout d'un coup il fait entrer le principe de raison dans l'histoire elle-même, et on retrouve finalement la même structure mentale que dans la théologie dont nous parlions. C'est, voilà, le lien qu'on peut faire entre la raison d'être que l'on peut donner à la souffrance qui apparaît la plus absurde ou la plus injuste.
Oui, le réflexe religieux n'est pas le propre des religions.
Et de ce réflexe religieux, vous avez voulu vous émanciper tout en restant croyante, si j'ai bien compris.
Tout à fait.
Voilà, mais je pense que vous y avez réussi, en tout cas dans l'autre Dieu, Marion Millet-Collard. Un mot pour finir peut-être, Frédéric Lechterflach, je vous donne le mot de la conclusion.
Ma conclusion, c'est simplement de rappeler que finalement, face à la question du mal, face au scandale du mal qu'on rencontre dans nos vies, chacun négocie ses propres solutions, chacun négocie des manières d'attraper la question, de vivre avec, de fonctionner avec. Et l'essentiel, je crois, dans toutes ces scènes littéraires, dans tous ces dialogues que j'ai essayé d'étudier, c'est que la solution de l'un ne vienne pas accentuer la blessure chez l'autre. Que ce qui sert à soulager l'un ne vienne pas creuser les plaies de l'autre. Et c'est une difficulté parce que la question du mal, c'est toujours une question dont on discute avec d'autres, qu'on a en commun et qu'on a en partage. Et il faut négocier des solutions qui ne soient pas blessantes pour les autres avec lesquels on partage ces difficultés.
Et peut-être aussi, faut-il éviter de toujours vouloir répondre à la question pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Bon, ben vous êtes d'accord.
Bien sûr. La question n'a pas de réponse et doit rester comme ça.
Merci beaucoup, Frédéric Lechterflach. Je rappelle le titre de votre livre, Pourquoi le mal frappe les gens bien. Et il a pour sous-titre La littérature face au scandale du mal. Il est publié aux éditions Flammarion. Votre livre, Marion Muller-Collard, a deux éditeurs. La grande édition L'autre Dieu, la plainte, la menace et la grâce est publiée chez Labor et Fides et il est paru en édition de poche également chez Albin Michel. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Corinne Amard, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Laurent César. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Être un homme aujourd'hui. Mes invités sont Frédéric Becbédé et Yvan Yablanka. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet.